France Inter. Le masque et la plume. Cinq livres au sommaire du masque cette semaine avec Ta promesse de Camille Laurence, roman d'amour qui commence et finit au tribunal, Sans soleil, thriller de Jean-Christophe Granger dans la France des années 80 touchée par le sida, figurent aussi au programme le roman d'espionnage et d'idées de l'américaine Rachel Kushner, le livre intime qui bascule parfois dans le fantastique de Sabri Louata autour de la paternité, et enfin un récit de voyage et de deuil signé Gaëlle Josse. Pour en débattre sur scène et face au public du théâtre de l'Alliance française, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Léris du journal Le Monde, Jean-Marc Proust du média en ligne Slate, Laurent Chalumeau, auteur, et Patricia Martin de France Inter, avec leur philo chaque vendredi à 20h. Bonjour, bienvenue, c'est Le Masque et ses plumes avec un filet de voix. Cher Masque, je ne t'ai jamais écrit, mais là, face à un tel chef-d'œuvre, je n'avais pas le choix. Commence Yacine Sif El Islam depuis Bordeaux. J'ai ouvert l'hospitalité aux démons. Pour rappel, il s'agit du récit d'un homme qui a été victime d'agression sexuelle et qui devient père. Il en fut question dans le premier Masque de l'année 2025 et dans cette séquence courrier, déjà. Je n'ai pas pu arrêter ma lecture, poursuit Yacine. J'ai finalement pris mon portable et envoyé ce message. Frangine, lâche tout. File en librairie, vole-le si t'as pas de thune, mais jette-toi sur L'hospitalité aux démons de Constantin Alexandrakis. Vous continuez de vous enthousiasmer pour un autre roman de semaine en semaine. Il s'agit de Madeleine avant l'aube de Sandrine Collette. Gilles de Mâcon écrit par exemple, ce livre dit beaucoup de nos proches ancêtres de la paysannerie et de leur soumission au maître. Cette œuvre dénonce notre inclination à accepter l'asservissement. Vous êtes nombreuses et nombreux à réagir aux critiques concernant Un avenir radieux de Pierre Lemaître, et le mail de Daniel me paraît résumer l'ensemble. Cette auditrice regrette que la scène de viol du livre soit réduite à une grossièreté. Trouver que la scène est trop longue et laisser planer un doute de voyeurisme, c'est choquant. Cette durée, perçue différemment par chaque lecteur, n'égalera jamais celle ressentie par la victime, qui en gardera la trace des années. Émilie de Moselle revient sur Lorraine Brûle, premier roman de Jeanne Rivière, qui a emballé certains et déçu d'autres ici même. Cette auditrice répond aux critiques acerbes concernant le style de Jeanne Rivière avec les mots suivants. C'est pas un effet de style, c'est du Mosellan. Venez donc faire un tour à Metz ou à l'hypermarché Auchan de Metz-Semécourt. On vous apprendra. Et je termine par la lecture du mail d'Hélène du Poiré-sur-Vie, en Vendée. Cher Masque, j'ai souvent pensé prendre ma plume pour te parler littérature. Jamais je n'aurais cru que ce serait pour parler finance, que je me déciderais enfin. Mais suite au courrier de Laurence qui souhaite la création d'une appli de vente de livres d'occasion, j'aimerais préciser deux ou trois choses. Les livres sont écrits par des personnes qui, selon la tendance apparemment en vogue, vivraient d'air, d'amour et d'eau fraîche. Pour un livre neuf, une romancière ou un romancier ne perçoit que 8 à 10% du livre acheté. En cas d'emprunt, en médiathèque, un pourcentage très inférieur est versé. En cas d'achat de livres d'occasion, l'autrice ou l'auteur ne touche rien, zéro. Quelle culture, quelle littérature, donc quelle société voulons-nous ? Demande cette auditrice. Je ne vais pas répondre ici, mais j'aimerais juste vous indiquer la lecture de « À pied d'œuvre » de Franck Courtès, qui est le récit d'un homme qui finit par vendre sa force de travail de petit boulot en petit boulot pour s'offrir une liberté qui lui est chère, à savoir celle d'écrire. « À pied d'œuvre » de Franck Courtès est paru en poche. On commence avec « Ta promesse », roman de Camille Laurence, membre de l'Académie Goncourt et prix féminin pour « Dans ces bras-là » en 2000. Ce titre, « Ta promesse », renvoie à celle que se font deux amants, Claire Lancel, qui est écrivaine, et Gilles Fabian, metteur en scène spécialisé dans le théâtre de marionnettes. Et ce personnage va se révéler manipulateur, y compris dans sa vie personnelle. Gilles fait promettre à Claire de ne jamais écrire sur lui, alors que l'autofiction est au cœur de son œuvre, et elle lui fait promettre de ne jamais la trahir. ni l'un ni l'autre ne tiendra parole. Le roman raconte comment et pourquoi. Alors c'est d'abord le récit d'une histoire d'amour idyllique qu'on lit sous tension, parce que parallèlement est mis en scène un procès avec les témoignages des proches de Gilles et Claire, donc on apprend très vite que leur histoire s'est terminée dans la violence. Le bonheur amoureux fait l'objet de plusieurs poèmes insérés dans le texte. Plus tard, la réalité de leur histoire inspire une fable dystopique dont est reproduit un court extrait. Et dans l'épilogue de Ta promesse, la narratrice affirme qu'entre une personne qui lit un roman et quelqu'un qui est amoureux, il y a un point commun, à savoir croire à l'histoire, en un mot, être dupe. Est-ce que tu y as cru, toi, Raphaël ?
J'y ai modérément cru. Non, j'aimerais d'abord dire l'évidence, qui est qu'on n'a pas beaucoup d'autrices et d'auteurs du niveau général de Camille Laurence, qui a vraiment une capacité à mélanger la cruauté et la sensibilité, qui a un sens de la construction, une langue, comme on n'en a pas beaucoup. Et constante de cette manière depuis 30 ans, donc vraiment, je voudrais dire l'admiration que j'ai pour cette femme.
Mais ça, c'était comme une sorte d'avertissement.
Voilà. Mais ça veut dire que le nom de Camille Laurence est en lui-même une promesse, émoji, clin d'œil, et qui n'est pas tout à fait tenue, je trouve, la promesse. Parce que c'est une championne de la subtilité, normalement, et là, je trouve que ça en manque un peu. Voilà. Le coup d'avoir... Enfin, que le manipulateur soit marionnettiste, les bras m'en tombent. C'est embêtant, enfin, je veux dire, surtout quand c'est Camille Laurence. Et puis ce qui me pose problème, c'est qu'elle nous rend impossible l'illusion amoureuse. C'est-à-dire que dès le départ, c'est elle qui veut nous montrer qu'elle a été manipulée. Et donc, elle nous explique qu'il est quand même pas très malin, qu'il est un peu creux, que
son langage... Oui, il y a même des fois où elle est assise, elle se prend la tête entre les mains, puis elle dit « mais il est complètement con
». Voilà, il est complètement con.
C'est ça qui est complètement fou, ce personnage n'est pas crédible, absolument. C'est un grand metteur en scène de théâtre, d'opéra, spécialiste mondial des marionnettes, référencé par l'UNESCO. Et il a une conversation insipide. On a l'impression que sa vie professionnelle, c'est gardien de parking.
Mais parfois, quand il n'a plus rien à dire, il se met au piano, et là, c'est à la fois troublant, érotique, magnifique. Alors là, évidemment, les mots ne servent plus à rien. Mais il y a aussi la manière dont Camille Laurence, dont on sait qu'elle joue avec son propre personnage dans le personnage de Claire Lancel, quelle image d'elle-même donne Claire Lancel ? Et alors, Claire Lancel, c'est une hyper-victime qui n'a que des qualités. C'est-à-dire qu'elle a une générosité, une forme de candeur qui est admirable après tant d'échecs à Mureux, parce que la Mure l'a beaucoup déçue. Néanmoins, elle ne se laisse pas renverser. Ce qui pourrait être fort. Mais elle dit des choses comme, et vraiment, ça ne va pas du tout à Camille Laurence, des phrases comme « j'ai une addiction à l'âme humaine ». Elle dit ça dans une déposition. Ou encore, elle dit qu'elle déteste la mondanité ou que rien de ce qui relève de l'opinion ne l'intéresse. C'est quand même une manière de présenter son personnage qui est un petit peu problématique et d'en faire une hyper-victime vraiment très profonde et portée sur l'amour face à cet horrible personnage.
Et elle se présente aussi comme une grande écrivaine.
Grande écrivaine, également. Alors, elle a, comme écrivaine, Camille Laurence a théorisé la question de la répétition comme névrose et comme chose féconde. C'était dans un livre qui s'appelle Encore et toujours. Mais alors là, en matière de répétition, comme on disait dans une pub, tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. Parce que, donc, elle met en scène la répétition névrotique des amours malheureuses avec des mecs nuls. Bon, très bien. Mais il y a aussi le fait que, sur la structure, elle répète beaucoup, ce qui est un livre très réussi précédent, qui était Pas celle que vous croyez. Et donc, j'ai plutôt envie de vous conseiller de lire Pas celle que vous croyez.
Patricia ?
Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec des choses que tu as dites, parce que moi j'y ai cru au personnage, justement, je trouve qu'elle fouille assez, c'est pas une fiche Wikipédia sur un pervers narcissique, et c'est pas juste un type un peu con et un peu méchant, c'est un vrai pervers narcissique qui, effectivement, comme tu l'as dit, tire les ficelles comme s'il était un marionnettiste, on peut le croire. C'est quand même sacrément bien écrit, je trouve.
Ah oui.
Il y a une tension dans le récit de bout en bout. C'est quand même sacrément bien construit. Je trouve qu'il y a une menace qui plane dès le départ avec l'interface de cette avocate. C'est habile. Et l'appréhension qu'elle a des êtres est assez juste. Et le fait que la littérature éclaire au fond la vie et que ce qu'on n'a pas compris dans la vraie vie en les vivant, on peut peut-être le comprendre en l'écrivant. Néanmoins, moi, cette femme, elle m'a exaspérée à la première ligne. C'est-à-dire que elle est,
c'est quand même qu'est-ce, pas. Qu'est-ce qui t'a énervé?
Ce qui m'a énervé, c'est que elle plaque une envie. C'est-à-dire que elle, moi, j'ai eu vraiment aucune empathie pour elle, même si elle a un peu dégusté. Oui, c'est vrai. Mais son fait de ne pas, elle aime pas un homme tel qu'il est, enfin une personne telle qu'elle est. Et en prenant le temps de la découvrir, le premier soir, tout de suite, elle plaque une envie qu'elle a, qui est complètement infantile. Il y a une crédulité chez elle. Enfin, on se croirait à un moment donné dans un conte de fées de la collection Harlequin, tu vois. Ils se rencontrèrent, ils se regardèrent et tout de suite, enfin bon, à un moment donné, bah, si vous êtes bien ensemble au pieu, bah, envoie-toi en l'air autant que tu as avec lui, mais ne lui demande pas plus que ce qu'il peut te donner. Et n'arrive pas comme une princesse qui attend son prince charmant. Pas à 50 balais.
Ou alors le standard est ouvert pour appeler Patricia Martin.
C'est le retour de Macha Meryl.
Non, mais quand tu te dis quand même qu'il y a des... Ouais. Enfin, le féminisme, c'est pas fait non plus pour les cochons, ni pour les cochonnes, d'ailleurs. Et alors, tu te dis, mais avec
c'est fait pour tout le monde, on va dire ça.
Avec des nanas qui sont comme ça, mais alors, les pervers, ils ont des champs, mais entiers devant eux. Et moi, ça m'a... Vraiment, j'ai fait des bons tout le temps de ma lecture.
C'est encore un peu le cas, d'ailleurs. Est-ce que t'en as perdu des cheveux? Mais non, c'est plus possible, Jean-Marc.
Non, les derniers sont partis avec ce livre. J'ai trouvé que c'était incroyablement scolaire. J'ai l'impression qu'elle s'est dit, je vais faire le roman du pervers narcissique 2025, et elle met tout de A à Z. Alors, c'est effectivement...
Sachant que le mot n'est prononcé qu'une seule fois.
Il n'est prononcé qu'une seule fois, mais on sent quand même qu'elle a voulu faire le roman parfait à ce propos. Il ne manque rien, c'est bien construit, mais les personnages, pour moi, ils ne sont pas crédibles du tout. C'est-à-dire que ce grand intellectuel qui n'a rien à raconter...
Ah, mais ça peut arriver.
On n'a pas les mêmes...
Patricia Martin, productrice de l'heure philo sur France.
Dans le privé, tu peux avoir des mecs ou des nanas, d'ailleurs, qui n'ont pas grand-chose à dire dans la vie de tous les jours, alors que ce sont de grands esprits par ailleurs.
Oui, mais pas ce personnage-là. Comment on peut imaginer qu'un type qui a un tel... une telle vie de metteur en scène, il fait tous les théâtres du monde, c'est un grand intello, et il n'utilise pas son bagou, sa capacité à parler, à éblouir, pour séduire. C'est un manipulateur. Et le type, il se contente juste d'écouter. Enfin, c'est pas possible. Et puis, grande intellectuelle, enfin, elle en fait des tonnes pour nous montrer que c'est une intellectuelle. C'est-à-dire qu'elle va voir son avocat, lui parle d'écrivain italien, elle est face au juge, elle lui demande s'il connaît Deleuze. Enfin, c'est quand même, c'est grotesque du début à la fin. Et puis, c'est interminable. C'est-à-dire que je pense qu'elle a voulu vraiment bien faire. Mais à l'arrivée, moi, j'y ai pas cru. Un seul instant, j'ai trouvé que c'était un roman sympathique. À aucun moment, j'ai éprouvé de la pitié, de l'angoisse, etc., ce qu'on devrait ressentir dans ce roman.
Mais est-ce que vous avez trouvé ça bien écrit, Laurent Chalumeau, pour ce qui concerne l'écriture?
Alors, c'est intéressant, parce que, à vous entendre, je découvre qu'en fait, ce que vous reprochez au personnage est en fait ce qui m'y a fait adhérer. C'est-à-dire... Non, mais... C'est-à-dire que, justement, je rejoins le contour que vous en faites, mais je trouve que, justement, ce qui est intéressant et ce qui est bien vu, et l'un des intérêts possibles de ce texte, c'est de mettre au jour et de décortiquer la façon dont cette écrivaine, tout emplie d'elle-même, et qui considère que la vie lui doit de grandes histoires, se laisse prendre dans les filets d'une espèce de bellâtre un peu avantageux, roué, madré, qui sait écouter quand il faut, lâcher une platitude qui relance la conversation, mais comme je joue pas aux cartes, mais comme on relance de quelques jetons au poker. Et en fait, on pourrait envisager le texte de cette façon, et peut-être que Camille Laurence n'est pas dupe d'elle-même. Je veux bien lui donner quitus de ça. Moi, j'ai eu la chance de lire ce livre de façon complètement innocente, je ne sais pas, mais naïve en tout cas, parce que le nom de Camille Laurence ne m'évoquait que de façon très lointaine des magouilles d'édition et de presse germanopratine.
Donc,
je ne savais pas de quoi le livre...
Ça, c'est un procès absolument injuste. Enfin bon, bref.
Mais je ne savais pas... Oui, mais voilà, je savais qu'elle existait, mais je ne savais pas trop à quel titre. Je ne savais pas de quoi le livre parlait, et je dois dire que je me suis fait rouler dans la farine et manipuler et embarquer, et j'ai trouvé que c'était un thriller sentimental assez réussi, parce que bon, il coche les cases, il respecte les étapes. On a déjà vu des histoires de femmes comme ça manipulées plus ou moins tragiquement par des gars dont c'est le métier. Ça aurait pu être encore mieux, de mon point de vue, si c'était un peu moins joufflu. C'est-à-dire que elle tartine, elle est très douée, mais hélas, elle en est très consciente. Et il y a vraiment des pages où elle rit de se trouver si talentueuse dans l'écran de son ordi. Et c'est dommage, parce que si elle se kiffait un peu moins, nous, on la kifferait plus. Mais c'est souvent comme ça, une espèce de péréquation entre la kiffance que l'auteur ou l'autrice a pour elle-même ou lui-même et la possibilité qui est laissée au lecteur. Donc, elle se kiffe trop. Du coup, nous, on kiffe pas autant qu'on aurait pu, mais on kiffe quand même parce que malgré tout, c'est pas mal.
Donc c'est pas kiff-kiff. Ta promesse de Camille Laurence est publiée chez Gallimard. On passe maintenant à un livre à la fois roman d'espionnage et roman d'idées qui met en scène des éco-activistes du Sud-Ouest, le tout mené par une autrice américaine. C'est Rachel Kushner, lauréate du Médicis étranger pour le Mars Club en 2018. Nous sommes en Guyenne. Et bien que le français soit ma langue maternelle, j'ignorais que la Guyenne désigna le Sud-Ouest sous l'Ancien Régime. Donc, c'est une autrice américaine qui me l'apprend. Et en Guyenne est dépêchée Sadie Smith, 34 ans, américaine, ex-agente du FBI, devenue mercenaire. La mission de Sadie, la voici. 1. Espionner le Moulin, une communauté d'éco-activistes. 2. Infiltrer les Moulinards. 3. Les pousser à la faute pour justifier une intervention des forces de l'ordre. Les moyens de Sadie sont les suivants, entre autres l'accès au mail du guide moral des Moulinards, un certain Bruno Lacombe, qui vit retiré du monde, qui est passionné par l'homme de Néandertal et qui fut proche de Guy Debord. Alors avec ses mails, ce Bruno Lacombe est la deuxième voix du livre. C'est le quatrième roman de Rachel Kushner et la quatrième fois, je crois, qu'elle s'intéresse à la radicalité politique à travers cette fois donc ce personnage de Sadie, sans foi ni loi, sarcastique à souhait et qui fait des parallèles décapants, donc drôles, entre les États-Unis et la France. Jean-Marc, le Sud-Ouest, tu en viens.
Oui, puis j'habite dans un moulin. Ben voilà. Je me suis totalement identifié, hein, éco-activiste. J'ai trouvé que c'était un roman très réussi. Il y a trois récits qui s'enchassent très bien. Le plus faiblard, à mon avis, c'est celui du type dans sa grotte qui découvre la Lune à chaque fois avec l'homme de Néandertal.
Ouais, dont la lecture des mails est parfois un peu fastidieuse, quand même.
Voilà, c'est ça. Et puis,
comme il n'emmerde personne, il vit dans une grotte, donc...
Oui. Enfin, il emmerde un peu à la lecture parfois, non?
Oui, hein. L'erreur. Moi, je le trouve ça. Moi, je l'ai bien aimé.
D'accord.
Toi, t'as bien aimé l'homme de Néandertal? Non, mais chacun ses goûts. Enfin, j'ai pas de problème avec ça.
Il était très doux, l'homme de Néandertal, figure-toi.
Je l'ai pas connu aussi.
Et sujet à la dépression. Et comme nous dit la première phrase.
Oui. Allez, on retourne dans le masque et la plume.
On retourne dans le masque et la plume. Non, elle nous dit que l'homme de Néandertal, il savait attraper des poissons à main nue et que c'était extraordinaire. Enfin, n'importe qui peut faire ça, c'est pas très compliqué.
D'accord.
Vous avez un aquarium, vous attrapez un poisson. Dans une rivière, il y a plus d'eau, mais avec de la patience, vous y arriverez. Donc, c'est vraiment.
On s'égare, reparlons littérature.
Et
donc, tu as aimé ce livre.
Après, le personnage de l'agitatrice, de l'espionne, etc., est bien construit. J'ai bien aimé le cynisme, le détachement, la froideur du personnage. Et puis, moi, ce qui m'a intéressé vraiment dans ce livre, c'est le regard d'une intellectuelle américaine sur cette communauté du Moulin. Alors, il y a des choses comme un Américain, elle ne maîtrise pas. Et c'est normal, c'est-à-dire qu'elle nous dit qu'on a un secrétaire d'État à la cohésion des territoires, à l'environnement, à l'énergie.
Non, mais elle le fait exprès. Ah ben moi, je pense que c'est exprès. Platon ?
Oui.
Ah ben moi, je trouve que c'est exprès. Attends,
qu'est-ce qui est exprès ?
La cohérence rurale, ben elle l'a inventée.
Ah non, le titre, c'est qu'elle en fait un secrétaire d'État. En France, c'est forcément un ministre. Mais ça, elle ne peut pas le savoir comme américaine. En revanche, il y a des choses qu'elle va voir dans la communauté du Moulin qui, moi, m'ont fait hurler de rire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se pose la question de Debord, est-ce qu'il n'aurait pas un peu couché avec sa sœur ? Ah oui, alors c'est possible, mais en même temps, c'est une perversion qui existe. Et puis, est-ce que nous, on n'est pas tous des pervers ? Et puis, est-ce que la perversion ne permet pas la création ? Parce qu'il faut à tout prix blanchir Guy Debord. Ça m'a fait penser au bouquin que Christophe Bourseiller avait consacré à Guy Debord. Il avait dit que ce type hors système avait un numéro de sécurité sociale. Et ça avait rendu tout le monde fou. On ne pouvait pas dire ça de Guy Debord. Et là, ils ont le même réflexe. Et il y a un deuxième passage dans la communauté qui m'a paru vraiment très, très bien vu. C'est le moment où les types se réunissent dans la bibliothèque pour écrire leur manifeste. Et il y a une femme qui leur apporte le café. Et la narratrice dit, vous n'êtes pas en train de reproduire un petit peu des trucs patriarcaux ? Et là, le gourou de la bande dit, c'est un problème. Nous avons ce problème. Et ce faisant, il l'évacue, et ça se passe toujours comme ça dans les communautés. Il y a toujours un moment donné où, malgré toute la bonne volonté, on se retrouve avec cette répartition sexuée des tâches, et ça, elle le perçoit très bien. Moi, j'ai adoré vraiment son regard d'américaine sur la France, et même si l'homme de Néandertal s'est un peu longué, je pense que c'est quand même sur l'activisme politique ce que j'ai lu de plus intéressant depuis longtemps.
Et toi, est-ce que tu as apprécié ce regard d'américaine sur la France ? Tu vas nous dire déjà que tu l'as lu en VO.
J'ai trouvé que c'était une idée excellente. Que la conception du livre était vraiment fut-fut. C'est un projet ambitieux, mais auquel elle rend justice, parce que son dispositif est vraiment ingénieux. Elle a trouvé des solutions efficaces pour rendre les fiches Wikipédia digestes, même si, effectivement, de temps en temps, ça tire en longueur. Mais son idée de narratrice infiltrée, c'est vraiment, comme souvent les idées simples, c'est ce qui est plus dur à avoir. Mais une fois qu'elle l'a eu, elle a dû se dire qu'elle tenait son livre. L'exécution est un peu inégale. Oui, il y a des moments où on s'égare un peu dans les grottes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le livre a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que, comme elle est ricaine et que ça se situe en France, elle se retrouve à essayer de produire de la francité. Et parfois, elle se ramasse et ça nous donne à vivre ce que vivrait un ricain qui lirait du Joël Dicker. Et il y a d'autres moments où, au contraire, le cynisme et la lucidité du personnage produit des passages absolument savoureux, sans mauvais jeu de mots, particulièrement sur la gastronomie française, qui est mise à mal avec un pragmatisme auquel les normes françaises ne sont pas habituées.
Et la gastronomie italienne aussi, hein, qui en prend pour son grade.
Et ça, c'est parmi les moments les plus savoureux du roman.
Il y a la représentation des élites françaises, avec une méchanceté d'une gratuité totale.
Thomas, là.
Alors, il y a
l'hôtel Meurice.
Il y a un faux Houellebecq qui ne sert pas à grand-chose. Mais alors, il y a quasiment une page qui ne sert à rien, sinon à faire plaisir, sur Bernard-Henri Lévy. Alors, lui qui... Parce que autant le Houellebecq, il a un faux nez et un faux nom, mais BHL est cité nommément. Et elle le présente comme un chroniqueur néo-conservateur véreux, avant d'enchaîner sur ses chemises fabriquées sur mesure, expressément sans bouton. À aucun moment le mot philosophe n'est prononcé. On a envie de dire Noyeux Joël Narbé. Ça ne sert à rien, mais ça fait du bien. Donc c'est un livre qui est loin d'être parfait, mais au moins qui est vivant.
Et cette femme infiltrée, est-ce qu'elle t'a plu à toi, Patricia ?
Alors,
cette
elle sadisme. M'a plu malgré le fait qu'elle est quand même assez antipathique, en fait. Elle est d'un cynisme total. Moi, j'ai souffert.
Mais c'est ce qui fait toute sa séduction, non ?
C'est ce qui fait sa séduction. Et ce pauvre Lucien, il s'en prend quand même plein les dents parce qu'elle fait semblant de l'aimer. Alors, elle, c'est autre chose que chez Camille Laurence.
Oui, c'est-à-dire que je précise qu'elle séduit ce fameux Lucien pour tenter d'approcher le chef de la communauté mais qu'elle doit infiltrer. Amour.
Elle joue vraiment la comédie. Et donc, puis lui, ça a l'air d'être un brave gars. Non, moi, j'ai trouvé que c'était pas du tout. C'est pas une Américaine qui a un regard sur la France. Moi, j'ai trouvé qu'au contraire, elle est plus française, tu meurs. Elle a une espèce d'immersion. Et je crois d'ailleurs que son mari, j'ai vu, était le traducteur de Badiou, de Rancière, de Lacan. Enfin bon. Et qu'elle avait été d'ailleurs en lien avec Julien Coupa, qui aurait bien aimé qu'elle écrive une sorte de documentaire un peu sur lui.
Alors,
et que donc, elle a. Pardon ?
Coupa le conteste.
Oui, ah bon, bah écoute, c'est ce qu'elle dit. Enfin, j'ai lu une interview d'elle où elle le disait. Et donc, bref, et elle a bien fait de faire un roman parce qu'il y a une familiarité, mais absolument bluffante avec notre pays, quoi, avec le terroir, avec la géographie, les autoroutes, les camions, effectivement, la bouffe, toute la culture. Le portrait qu'elle fait de Guy Debord, moi, j'ai éclaté de rire. Tu parlais de BHL, bien sûr, mais Guy Debord, c'est. Enfin, bon, elle le présente un peu comme le dernier des alcooliques. Enfin, c'est extrêmement drôle. Et moi, j'ai alors été très, très, comment dirais-je, touchée par ce personnage de Bruno, qui est ce vieux philosophe, enfin vieux, il n'est pas si vieux que ça d'ailleurs, il est plus jeune que moi je pense, mais il vit dans une grotte, et il s'intéresse vraiment à la terre au sens propre du terme, et ça devient un roman anthropologique à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle réhabilite Néandertal, et en disant à Sapiens, maintenant tu la mets un
en veilleuse.
En veilleuse, exactement.
Et quand tu me regardes, tu penses Sapiens.
Je ne te dirai pas ce que je pense. Je ne pense pas, je suis trop émue pour ça quand je te regarde. Voilà, enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce bouquin.
Raphaël.
C'est vraiment la voix de Sadie qui m'a plu, qui a une espèce de séduction toxique et qui fait que là où on sait bien, où on sent bien que Rachel Kushner a un penchant pour les éco-activistes, qu'elle ait fait le choix d'avoir cette narratrice sans foi ni loi, c'est un excellent choix romanesque de pas du tout être dans le préchi-prêcha. Justement, alors pour le préchi-prêcha, il y a Bruno Lacombe, mais justement, en fait, la rencontre de ces deux voix de Bruno qui pérore, mais qui est en même temps un peu vulnérable, donc qui est assez beau aussi
fragile,
comme personnage.
Et elle est séduite par lui, enfin.
Elle est extrêmement séduite par lui. Et voilà. Et je trouve que le choix d'un point de vue romanesque de cette voix-là, qui ne fait que repérer les faiblesses des autres pour porter ce discours sur la fin de l'humanité, qui est obsédée par les débuts de l'humanité, je trouve que c'est une très belle réussite romanesque.
Le lac de la création de Rachel Kushner est traduit par Emmanuel et Philippe Aranson. Le roman est publié chez Stock dans la collection Cosmopolite. Il faut qu'on accélère un petit peu et on continue avec Safari de Sabri Louata, un auteur qui s'est fait connaître avec la saga Les Sauvages, adaptée en série et réalisée par Rebecca Zlotowski. Après des thrillers politiques, Safari est un roman plus intime qui met en scène un narrateur-écrivain français vivant à Chicago et père d'un gamin qu'il surprotège. À l'occasion d'une visite dans une serre, c'est comme ça que le roman débute, le narrateur perd son gamin au propre comme au figuré, il perd son gamin de vue au propre comme au figuré, puisque ce narrateur a une vision déficiente. Un homme qui se prénomme Gabriel, comme l'archange, lui ramène son gosse. Or, ce Gabriel est le sosie vocal du père du narrateur, disparu 20 ans plus tôt, après avoir fait un tiercé au PMU. C'est le début d'un grand cache-cache, de disparition, d'apparition, réelle, parfois fantasmée, voire fantastique, avec plusieurs motifs. La paternité, d'abord, mais aussi la voix, le son de la voix, ou la phobie des chiens. Patricia.
J'ai énormément aimé ce livre, alors qui est du coup... Pour le coup, qui pourrait presque être écrit aussi par un Américain. Il y a une espèce de distance, de
sachant que Sabri Louata vit lui-même aux États-Unis.
Il vit lui-même aux États-Unis et que probablement il est très influencé aussi par la littérature américaine. Il y a une forme de... j'ai pensé qu'il y a du jeu dans le jeu. Il y a une forme de comment dirais-je, une introspection ouverte qui, moi, m'a énormément plu. Alors, il y a tout le côté thriller. C'est très inquiétant. Il y a beaucoup de scènes qui se passent la nuit. Il y a des chiens qui font peur. Les père et fils font des cauchemars. Quand il attrape un souvenir, quand il réussit à l'attraper, tout de suite il s'efface. Il est hanté justement par cet effacement. Et s'il en veut autant à sa mère, parce que c'est assez intéressant aussi de voir les rapports entre mère et fils, c'est que elle s'en fiche que son mari, donc le père du narrateur, ait disparu à un moment donné. Ça l'a pas vraiment.
Et puis elle fait en sorte qu'il disparaisse totalement.
Enfin, exactement.
Qu'il ne reste même pas dans les mémoires.
Il en reste même pas de traces. Il y a quelque chose de sauvage, d'indompté dans la façon d'être de ce garçon, une révolte, et puis d'un autre côté, des sentiments très forts dans l'intimité, le regard qu'il porte sur son petit garçon, cet amour incommensurable qu'il a, je le trouve génial, et on se rend bien compte qu'il veut protéger son fils, il veut les protéger de ses propres angoisses. Et il n'y arrive pas, c'est aussi ça son drame, mais je crois qu'on n'y arrive jamais, me semble-t-il.
Jean-Marc ?
Ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas lu le même livre. Moi, j'ai trouvé ça vraiment lourd et pesant. J'ai eu l'impression qu'il essayait de faire 2-3 livres différents, donc celui sur la paternité dont tu parles, le côté un peu étrange de rencontrer ce personnage qui a la voix de son père et qui va l'obséder, et puis cette fête de Noël familiale où il essaye de faire quelque chose de drôle. Et j'ai eu l'impression que systématiquement, il annonçait ses effets. Il nous dit, cette fête de Noël, ça va être épouvantable, ça va être terrible. Et puis au fur et à mesure que la fête se déroule, il nous prend à témoin en disant, regardez comme c'est épouvantable. Je pense que quand on a des choses drôle à montrer au lecteur, on laisse le lecteur s'en débrouiller tout seul. Pour moi, il a fallu que j'attende, grosso modo, la page 200 pour être un peu récompensé de ma lecture, avec une légère surprise à la fin, mais ça m'a vraiment déçu.
Raphaël,
Séduite par l'étrangeté, parce que j'aime beaucoup, et c'est également le cas avec le livre de Rachel Kushner, les narrateurs non fiables. Je trouve que c'est toujours un ressort qui est intéressant. Et donc là, c'est un narrateur qui ne voit pas grand-chose et qui a des hallucinations auditives. C'est un parent hélicoptère, comme on dit de nos jours, mais donc un hélicoptère dans le brouillard.
C'est quoi un parent hélicoptère ?
C'est les parents qui restent au-dessus de leur enfant, comme ça, qui planent et qui ne veulent pas le laisser partir. C'est le parent drone, un peu.
Okay.
C'est papa et maman hélicoptère. Donc là, c'est un parent hélicoptère dans le brouillard. Et donc d'avoir ce personnage dont on ne sait jamais à quel point on peut le croire ou pas, qui a des images qui saisissent, un rat congelé au milieu de la rue avec ses pattes bleuies, ou le masque d'un chien, je trouve que ces images sont extrêmement fortes et que ce rapport qu'on a avec le narrateur, moi je le trouve extrêmement riche, intéressant. Je trouve ça formidable de voir grandir les auteurs. Ça fait donc 13 ans, je crois, que Sabri Louata a publié son premier roman, le début des Sauvages. Et je trouve ça formidable de voir comment s'articule chez lui le rapport entre le réel et la fiction, qui est vraiment son sujet depuis le début. Et là, je trouve ça, que l'articulation aussi entre ce qui est une méditation sur une espèce de solitude ontologique et les choses dont on ne se remet pas jamais, quel que soit le bonheur qu'on a fini par conquérir, moi, ça m'a beaucoup touchée.
Est-ce que tu t'es remis de ce roman, Laurent Chalumeau ?
Alors, je serais un foutu de dire ce que ce livre raconte, mais j'ai beaucoup aimé admiré la façon dont il le raconte. Je trouve que la phrase de l'auteur possède une grâce et une classe folle. Comme on dit, c'est clair, net et précis, c'est fluide, ça caresse l'œil. Et donc, même en ne sachant pas de quoi le roman parlait, je me suis laissé charmer par sa mélodie limpide, du début à la fin. Alors, peut-être parce que ça se passe à Chicago qui est vachement bien restitué.
Et quand il neige à Chicago, c'est quelque chose.
Et alors, on l'appelle pas la ville des vents pour rien. Et puis aussi parce que les histoires de racisme et de couleur de peau sont envisagées avec pragmatisme et lucidité factuelle. Vous allez hurler, mais par moments, ça m'a... Alors, bref, certes, mais par moments, ça m'a fait penser à Saul Bellow, pour vous dire à quelle altitude ça peut se hisser parfois de mon point de vue. J'ai trouvé l'auteur, donc... très très fort pour faire exister les personnages et les endroits, ce qui m'attriste d'autant plus de ne pas avoir réussi à me laisser embarquer par le mouvement de son histoire de père disparu et de phobie des chiens. Vraiment, ça me navre, parce que j'aurais adoré davantage son texte. Je suis juste techniquement très impressionné, tant pis pour moi, et tant mieux pour celles et ceux qui sauront dire de quoi ce livre parle.
Safari de Sabri Luata est publié chez Flammarion Versilio. On continue avec Disco Inferno, premier tome d'un diptyque intitulé « Sans soleil » et signé Jean-Christophe Granger, un auteur qui a converti bon nombre de lecteurs au polar à la fin du siècle dernier, notamment avec le succès des « Rivières pourpres », adapté au cinéma, comme plusieurs de ses romans. Disco Inferno, cette fois, se déroule dans la France des années 80 et met en scène trois personnages. Daniel Ségur, un médecin, confronté à ce qu'on appelle à l'époque le « cancer gay », tandis qu'il veut rendre visite à Federico, l'un de ses jeunes patients homosexuels, Ségur retrouve le cadavre du gamin, atrocement mutilé. L'inspecteur Patrick Swift est chargé de l'affaire. Swift est beau gosse, amateur de cinéma, et par ailleurs passionné par Brigitte Lahaie. Va entrer en scène Heidi Becker, une amie de Federico. Elle et lui faisaient chanter les amants du jeune homme avec des photos. Federico est-il victime d'un de ses amants ou d'un tueur en série qui s'attaque aux homosexuels? L'enquête mène les personnages dans les lieux nocturnes du Paris des années 80, des bains-douches au club gay de la rue Sainte-Anne, jusqu'au Cap d'Agde. Est-ce que tu as suivi, Raphaël?
J'ai suivi. Alors, mon inculture étant sans limite, je n'avais jamais lu du Jean-Christophe Granger, et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement bien foutu.
Tu m'en remercies alors.
Je t'en remercie tout à fait. Et même, je voulais, même si ce n'était pas au programme, je voulais entamer le tome 2, mais on me l'a volé sur mon bureau. C'est vous dire si les gens s'intéressent à Jean-Christophe Granger. Mais voilà, j'ai trouvé que le rythme était vraiment très très réussi. J'ai beaucoup aimé le trio. Alors évidemment que c'est un peu forcé avec ce flic sombre au passé ténébreux et cette adolescente extrêmement futée qui perd le même jour beaucoup de monde et qui passe son bac le lendemain, hop, les doigts dans le nez. Sont des personnages qui sont un peu forcés, mais je trouve que leur alliance fonctionne extrêmement bien, quelque chose de très séduisant. Le côté médical aussi avec le personnage de Willy Rosenbaum et c'est tous ces gens qui sont dans le brouillard sur les débuts d'Issidage, moi il me semble que c'est vraiment très 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 bien restitué. Ça cavale, ça se lit vraiment avec beaucoup beaucoup de plaisir, donc j'étais très heureuse de découvrir.
Et toi Laurent, c'était pas une découverte Granger, j'imagine?
Alors j'avais lu les trois premiers, puis un jour j'avais décidé d'arrêter au bout du troisième, il y a 25 ans. Là, c'est le prix à payer pour avoir l'honneur d'être
hissé, tu ne remercies pas Rebecca.
Sur cette estrade. Comme disent les Ricains, un déjeuner gratuit n'existe pas, donc voilà. Je voudrais chipoter sur l'appellation polar. Alors polar, oui, c'est vague. Mais idéalement, le polar et le roman noir sont des choses qui démasquent et dénoncent l'ordre des choses de façon plus ou moins frontale. Le Grand Guignol et le Musée des horreurs, au contraire, le reflètent ce même ordre des choses et l'entretiennent. Et là, c'est exactement ce dont il s'agit. C'est du Grand Guignol et un robinet à idéologie. L'univers, de toute façon, est simplifié et réduit à quelques simplifications bêtes et méchantes. C'est comme les plats cuisinés industriels. Comme chacun sait, il y a des colorants artificiels. Alors là, ici, les colorants sont artificiels et... des agents conservateurs. Là, les agents sont pas juste conservateurs, ils sont réactionnaires. Ce qu'on nous présente comme un moment d'évasion, en fait, n'est pas du tout un moment d'évasion, c'est un instrument de domination comme tout ce qui nous rend plus cons. Et il faudra, et je termine, m'expliquer l'intérêt...
Pauvre Rebecca, tu peux lui faire tous les signes que tu veux.
Et tousser par la même occasion.
Je pensais que tu toussais. Non, mais juste alors... Je lance un appel, il faudra m'expliquer l'intérêt d'écrire des livres pour ajouter à la laideur du monde, parce que normalement, on écrit des livres pour la déplorer, pour s'en protéger, pour y remédier, pas rajouter une pelletée de merde sur le tas de fumier.
Eh bien, ça s'appelle avoir des avis contrastés. Quel est celui de Jean-Marc Proust?
Moi, j'ai parlé des deux tomes, parce que j'ai lu les deux, on n'a pas volé le deuxième. J'ai trouvé que le premier était vraiment très réussi, et le deuxième n'était pas à la hauteur. C'est-à-dire que, dans l'ensemble, je pense qu'il fait un bon boulot. Alors, je ne suis pas polar, roman populaire. Il sait parfaitement poser une atmosphère, créer de la connivence avec le lecteur. Il interpelle le lecteur directement. Est-ce que tu veux que je te fasse la description de ça? Il sait parfaitement créer l'ambiance qui crée de l'empathie dans une scène où on mange ensemble, où on boit un verre. Vous lui donnez une demi-tasse de café, il vous fait trois paragraphes. Vous avez l'impression de le partager sur le sein avec les personnages. Donc ça fonctionne très bien. Et puis... dans le premier volume, il y a quand même pour moi ce décor qui est un élément structurant du récit, c'est le Paris homosexuel du début des années 80, avec cette rue Sainte-Anne, c'est invraisemblable ce qu'il raconte, c'est parfaitement documenté, c'est vivant, on a les boîtes
de nuit. Est-ce que tu as trouvé ça cliché alors ?
Non, j'ai pas trouvé ça cliché, j'ai trouvé que c'était bien restitué, j'ai trouvé que c'était riche en couleurs, que c'était vraiment toute une époque, j'ai découvert des choses, c'est-à-dire tous les personnages portent des mocassins, je sais pas pourquoi, soit c'est du fétichisme, soit c'est vraiment l'accessoire indispensable de l'époque, mais il y a ce genre de choses qui est si surprenant. Et puis alors, dans le deuxième volume, alors là, tout s'écroule, c'est-à-dire que l'intrigue commence à s'étioler, et puis il nous fait quelque chose qui est à mi-chemin entre le guide du routard et la fiche Wikipédia. Ils sont dans le désert, il y a du sable, c'est formidable, ils vont dans la jungle, c'est étouffant, ils vont à Haïti, il nous fait toute l'histoire d'Haïti, et puis il nous parle des plantations de canne à sucre, on est dans un manuel d'agronomie tropicale, et puis il nous remet l'histoire d'Haïti, on a la famille Duvalier, le père, le fils, le tonton Macoute, et il nous remet de la canne à sucre, enfin à la fin, j'en pouvais plus, j'ai trouvé que le deuxième volume était pas du tout à la hauteur, qu'il fallait garder le premier et le relire une deuxième fois, ça suffisait amplement.
Est-ce que tu l'as lu deux fois, toi, Patricia ?
Voilà une bonne nouvelle. On ne lira pas le second. Enfin, à titre personnel, j'en avais pas l'intention, mais avec ce que
je l'ai fait,
je le ferai pas. Okay. Non, c'est un boulot tout à fait honnête. Moi, je trouve qu'il fait le job. Bon, évidemment, c'est pas Jean-Patrick Manchette. Hein. C'est pas le roi du polar. Mais parfois, c'est trop spectaculaire à mon goût, trop effroyable. Il y a des poncifs un peu sur le flic qui est revenu tôt, sa femme l'a quitté, ou il quitte sa femme, je ne sais plus. Et il passe
enfin, il est seul, quoi.
Enfin, voilà, il passe sa vie au café. Le médecin qui est forcément un humaniste, un croyant, etc. Bon. Mais ça dit quelque chose. Moi, ça m'a rappelé énormément de souvenirs parce que ça dit vraiment quelque chose d'une époque, effectivement. Tu parlais des boîtes gays, de la rue Sainte-Anne, c'est l'Institut Arthur Verne. Tu disais aussi les journaux qui parlaient de ce mystérieux cancer. Mmh. De voir Willy Rosenbaum, moi, ça me fait tilt parce que combien de fois l'ai-je vu dans les couloirs de France Inter, il venait très, très souvent, il était invité à l'émission du Téléphone Sonne. Donc, cette explosion de liberté d'un côté, le sans limite, et puis après la peur aussi qui a saisi tout ce milieu, moi, ça m'a vraiment... ça m'a replongé dans quelque chose, ça m'a parlé, quoi. Ça m'a rappelé des souvenirs et j'ai trouvé ça quand même bien fichu.
Disco Inferno, tome 1 du diptyque Sans soleil de Jean-Christophe Granger est publié chez Albin Michel. Le second volume, paru en même temps, s'intitule Le roi des ombres. Et on termine ce masque littéraire avec le nouveau roman de la poétesse et écrivaine Gaëlle Josse. Le roman s'intitule « De nos blessures, un royaume ». Agnès est danseuse et à l'issue d'une représentation, elle décide de prendre la route sans prévenir. Prendre la route en car, parce qu'Agnès veut le voyage lent et plein de détours. Elle veut retrouver moments, lieux, œuvres d'art, vécues et parfois découvertes avec Guillaume, l'homme qu'elle a aimé, décédé un an plus tôt. Dans son sac, Agnès a pris soin d'emporter le livre favori de Guillaume, l'unique roman d'un certain Julien Lancel. Des extraits du livre et de lettres de Lancel à sa fille handicapée sont insérés dans le texte. Le deuil d'Agnès l'a conduit à Nice, puis en Italie, jusqu'à Zagreb, où se trouve le musée des relations rompues, un lieu qui existe effectivement, et où chacun peut déposer le souvenir d'un amour perdu. Laurent ?
J'ai emmerdé parce que je ne sais pas comment parler de ce livre sans être désobligeant vis-à-vis de quelqu'un qui ne m'a rien fait, à part m'emmerder, justement.
Bon, ça peut être la fin de...
Bah, tu vois, tu m'incites à la brièveté. Non, mais je pense que je me serais moins emmerdé, décidément, si j'étais resté pendant 3 heures à regarder la peinture sécher sur un mur. Pour moi, c'est un hobby qui a dégénéré et qui a débouché sur l'envoi malencontreux de 200 pages à l'imprimerie. Alors, on pourrait me dire que c'est comme les Amish en Pennsylvanie ou les Pygmées à Bornéo, c'est des gens qui m'ont rien fait, donc j'ai aucune raison de les déchaîner contre eux une opération militaire spéciale. Quoi. Mais peut-être que le problème, c'est ça, c'est justement que ça ne m'a rien fait.
Ok.
Voilà.
Est-ce que ça t'a fait quelque chose, Jean-Marc?
Ce livre m'a bouleversé.
Vous n'avez pas lu le même.
J'ai pas l'habitude d'être bouleversé par les livres, mais je dois dire que ça a brisé ma carapace d'homme de Néandertal ou de Sapiens. J'ai trouvé que j'ai rarement lu des choses aussi vraies, aussi touchantes sur l'amour que des parents peuvent avoir pour une enfant handicapée. Elle le dit avec des mots d'une simplicité extrême et c'est profondément touchant. C'est-à-dire que ça dit tout de l'amour d'un père pour cette fille attardée, comme on dit à l'époque, et de cet amour qui est d'autant plus fort qui sent la fragilité de cet enfant. Et par ailleurs, il y a son travail de deuil à elle, qu'elle accomplit dans un voyage en bus assez interminable, parsemé de références. Et j'ai trouvé que les références étaient vraiment bien inséré dans le récit. C'est pas des références gratuites, c'est des références qui viennent à point nommé. À un moment donné, elle parle d'un western, Liberty Valance, on se demande ce que ça fait là, mais en fait, c'est juste parce qu'il est dit dans le western, quand la légende devient la réalité, imprimer la légende, et elle veut se souvenir de son histoire d'amour comme ça. Après, elle se retrouve face à une nuit d'étoiles filantes, et elle pense au très beau film des frères Taviani, La nuit de San Lorenzo, où il y a une nuit d'étoiles filantes dans le premier plan, et elle dit en italien, on dit « stelle cadente », les étoiles tombantes. Et à ce moment-là, Gail Joss, qui vient du monde de la poésie, dit « les étoiles filantes, pour moi, ça a toujours été cadente, parce que j'avais l'idée que je pouvais en trouver une le lendemain par terre ». Et donc, elle met des petits grains de poésie comme ça dans ce récit, jusqu'au bout. J'ai rarement vu des pages aussi belles, aussi douces. Et ce n'est pas un hasard si la narratrice est une danseuse, parce que je pense qu'elle fait des pointes du début à la fin.
Quelle image, Raphaël.
J'aurais adoré lire le même livre que toi. Moi, j'ai eu l'impression de lire une espèce de parodie de Duras. Il y a des phrases, je riais un peu nerveusement. Mais qui concerne plus la partie sur la danseuse que le livre rapporté et les textes de Sper, que je trouve effectivement assez touchant. Je suis sûre que c'est sans doute, comme on dit dans les ruptures, c'est pas toi, c'est moi. C'est sans doute moi qui manque de cœur et de sensibilité. Moi, juste une chose, l'image du kintsugi, cet art japonais de réparer ce qui a été brisé par de l'or, qui donc rend ce qui a été cassé plus beau, c'est devenu le poncif absolu de la littérature contemporaine. Je n'en peux plus. Non, vraiment, je suis sûre que c'est ça n'est pas moi.
Laurent n'a pas l'air très kintsugi compatible. Patricia ?
Que n'a-t-elle été plus simple de A à Z ? Moi, c'est ça le reproche que je vais lui faire. C'est-à-dire que dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé ce livre, mais la première partie, c'est-à-dire jusqu'au moment, grosso modo, où elle est dans la chambre des époux à Mantoue, moi, elle m'a exaspérée, parce qu'elle est d'une grandiloquence, avec une surabondance d'adjectifs. Elle dit, par exemple, elle écrit « D'une journée banale qui m'ennuyait à périr, où j'étais toujours en quête d'un battement de cœur supplémentaire, tu faisais une constellation d'instants et de couleurs. » Moi, ça ne me plaît pas. En revanche, quand, à partir d'un certain moment, le texte s'envole, il est délesté, et elle peut parler d'un joli scarabée, par exemple, qui se balade pendant qu'elle est dans le bus, qui se balade sur son épaule. Et quand elle dit « on ne peut pas raconter l'immensité d'un désarroi », je crois qu'elle se trompe, parce qu'en fait, elle le raconte, pour ma part, en tout cas, en partie. Et tout le côté de ses parents avec cet enfant qui n'est pas comme les autres, effectivement, moi, ça m'a énormément touchée.
De nos blessures, un royaume de Gaël Josse est publié chez Buchet Chastel. C'est l'heure de vos coups de cœur, romans, bandes dessinées, revues, c'est à vous et à toi, Jean-Marc.
Alors, moi, je vous recommande une bande dessinée qui s'appelle « Rebetissa » de David Prudhomme aux éditions Futuropolis. C'est une histoire complètement folle. Ça parle du Rebetiko, qui est une chanson traditionnelle grecque, mais qui vient...
Musique, même.
Une musique qui vient de Turquie. Parce qu'en fait, il y a eu une énième guerre entre la Grèce et la Turquie, et les minorités chrétiennes grecques sont revenues en Grèce dans les années 20 et ont mis en place, ont chanté ce rébético. Et c'est un peu la chanson des bas-fonds. C'est la chanson du crime, on parle de hashish, etc. Ça se joue dans des troquets plutôt mal famés. Et ce rébético, quand vous, si vous l'écoutez, vous allez voir que c'est un peu grec, mais c'est aussi assez orientalisant, ça peut être un peu plus rude dans les sonorités. Ça va être interdit par le dictateur grec Metaxas dans les années 30, et cette bande dessinée raconte ça. Ces personnes, ces musiciens, ces chanteuses qui ont envie de continuer à faire vivre le rébético dans les troquets de la banlieue d'Athènes et qui jouent, qui flirtent avec la censure et la possibilité qu'à tout instant des policiers arrivent et les leur interdisent d'exercer leur art.
Donc Rébétissa de David Prudhomme, c'est chez Futuropolis. Il y a une version,
alors, c'est
à
une
l'italienne,
version à l'italienne,
en noir et blanc.
En noir et blanc, qui est magnifique et peut-être un peu cher, mais il y a une deuxième version plus accessible qui sortira en avril et en couleur.
Et en couleur. Raphaël.
La route des estuaires de Julie Wolkenstein, qui vient de paraître en folio. C'est une écrivaine chez qui la douleur, la mélancolie ne vont jamais sans la fantaisie, ce qui suffit à me la rendre extrêmement chère. Et la route des estuaires, c'est une route qu'elle prend depuis l'enfance pour aller dans la maison de Saint-Père qui est au cœur de son œuvre, mais puis qui descend vers l'Espagne et elle arpente les souvenirs que la route abrite tout son long. Et c'est un livre merveilleux qui a plein de branches, mais qu'elle réussit à réunir par sa langue, son regard, et c'est au cœur, il y a la mort de son petit frère quand elle avait 2 ans, et lui quelques semaines, et c'est un très très beau livre sur toutes les personnes qu'on a été dans sa vie, c'est magnifique.
La route des estuaires de Julie Wolkenstein, c'est chez Folio. Laurent.
Moi, je voudrais attirer l'attention sur la parution en poche aux éditions 10-18 du roman de Laurent Guillaume, Les Dames de Guerre. Les Dames de Guerre, c'est 1953, Saïgon, nid d'espions. Un dispositif futé, puisque suite à la mort mystérieuse d'un faux Robert Capa, il y a une héroïne inspirée de Lee Miller, flanquée d'un Anglais qui ressemble à Graham Greene, qui se retrouve opposée à des espions chinois, à l'administration coloniale française, à des agents de ce qui n'est pas encore la CIA, à des saboteurs Vietcong et à la mafia corse. C'est donc prenant, divertissant, instructif, avec une mention spéciale pour les scènes d'action, qu'il s'agisse de fusillades ou de combats corps à corps, où on sent que l'auteur parle de ce qu'il connaît grâce à ses vies antérieures dans la police de proximité dans ta gueule et de consulting très spécialisé en Afrique. Les Dames de Guerre de Laurent Guillaume.
En poche chez 10-18. Patricia.
L'accident de Jean-Paul Kaufmann, c'est aux éditions des Équateurs, ça paraît mercredi prochain. Sans l'accident libanais, puisqu'il a été otage donc au Liban, il ne se serait jamais penché sur son enfance, écrit-il. L'accident originel, et il y en a plusieurs dans le livre, c'est passé à Cornutz. C'est un lieu qu'il connaît bien, qui est au sud de Rennes. Et j'aime sa façon d'écrire à Kaufmann. J'aime ses déambulations, ses obsessions. Et là, c'est tout ce que pointe ce récit, je trouve, c'est le côté tout à fait aléatoire, bizarre, hasardeux de la vie qu'il s'emploie à déchiffrer. Et il essaye de mettre de l'ordre dans ce chaos.
L'accident de Jean-Paul Kaufmann qui est paru aux Équateurs et ça sort précisément le 26 février, je crois. Et pour ma part, dans le temps qu'il me reste, j'aimerais vous signaler 2 publications autour de Bob Dylan, tandis qu'est encore en salle le film de James Mangold avec Timothée Chalamet dans le rôle titre. Il y a déjà le 17e numéro de la revue Légende, qui est une revue comme on n'en fait plus, parce que très grande pour la beauté des photos, pour la longueur des textes aussi. Donc dans ce numéro consacré à Dylan, il y a des textes d'auteurs et d'autrices, à savoir François Bon, Patti Smith, Thomas Béreverdi, Philippe Dian. Et dans le même temps, paraît Bob Dylan Modern Times d'Yves Bigot chez Le Mot et le Reste, éditeur dont je salue la qualité du catalogue pour tout ce qui concerne l'histoire de la musique. Et le livre de Bigot réussit à tresser plein de choses, à savoir la biographie, la musique, le cinéma, l'histoire de l'Amérique, l'histoire de l'Occident, et à éclairer de façon à la fois précise et très accessible les textes et tout ce qui a pu nourrir l'œuvre et les inspirations de Dylan. Sachant que Bigot, comme Dian, conclut de cette façon, le prix Nobel pour Dylan, c'était quand même la moindre des choses. Bob Dylan, Modern Times, d'Yves Bigot, est publié chez Le Mot et le Reste. Jean-Marc Proust, Patricia Martin, Raphaël Léris, Laurent Chalumeau, merci pour vos lectures. Les prochains enregistrements du Masque et la Plume auront lieu le jeudi 27 février. Cet épisode du Masque et la Plume était réalisé par Stéphane Combe et Paul Laporte avec Marie Le Peintre, Jean-Benoît Tétu, Stéphane Touvenin et Emma Jarnol. Merci à Ilinka Negulesco pour la préparation et coprogrammation de l'émission avec l'aide précieuse de Nina Malray. Ma bande et moi vous retrouvons dimanche prochain, sans grippe j'espère, et évidemment sur France Inter.